Fin d'année oblige, sont publiés dans les journaux tout un tas de palmarès. Sans langue de bois ne déroge pas à la règle et nous avons décidé d'élire la femme et l'homme politique de l'année 2012. La semaine dernière, lors de la première partie de notre bilan politique de l'année 2012, les femmes étaient à l'honneur. Cette semaine, place aux hommes et nous allons faire un tour de table pour savoir quel homme a marqué la politique française en 2012. Et on commence avec toi, Amos.
C'est un candidat à l'élection présidentielle qui est arrivé au pied du podium. On dit souvent que c'est la pire place, la médaille en chocolat. Mais en l'occurrence, de par notamment la campagne qu'il a menée, je pense qu'il mérite le titre d'homme politique de l'année. C'est le candidat et homme politique Jean-Luc Mélenchon. Alors pourquoi Jean-Luc Mélenchon ? Parce qu'il a soulevé quelque chose dont la France avait bien besoin en cette triste année, l'espoir. En effet, François Hollande, avec son beau slogan « Le changement, c'est maintenant », s'il a essayé de retrouver peut-être les accents du fameux « change » prôné par Barack Obama en 2008, était bien loin d'incarner ne serait-ce qu'un millième de ce qu'a pu faire passer Barack Obama en 2008. Aucun élan, malheureusement, François Hollande n'a pas su créer ce que justement Jean-Luc Mélenchon a su saisir, c'est-à-dire la capacité à incarner quelque chose, à incarner un nouvel horizon, un changement que la politique pourrait rendre possible. Alors Jean-Luc Mélenchon, il a pu rapprocher la politique de ce qu'elle a de plus noble, de la littérature, de l'art, de l'histoire, quelque chose qui peut saisir les électeurs, qui peut saisir les citoyens, qui peut les prendre vraiment au plus profond d'eux-mêmes, en leur laissant entrevoir de nouveaux horizons. Avec Jean-Luc Mélenchon, on a eu le sentiment que la politique pouvait faire quelque chose, que oui, c'était possible. Il disait, le SMIC à 1 700 €, alors pourquoi pas ? Chiche, allons-y. La révolution citoyenne, eh bien pourquoi pas ? Oui, allons-y. Alors, face aux rapaces de la mauvaise nouvelle, de la raison résonante, de l'ordre moral et économique, Jean-Luc Mélenchon a pu apparaître comme un vrai espoir, un échappatoire. Il a incarné, le temps de cette campagne, une sorte de romantisme dont le pays avait bien besoin en ces temps de crise. Mélenchon a recréé un espace politique alors que, au cœur de cette crise, qui n'est pas seulement économique et financière, il y a bien une crise politique, presque de conscience fondamentale, en Europe, qui est cette absence de politique, ce sentiment que ce sont des technocrates éloignés qui nous dirigent, eh bien Jean-Luc Mélenchon, lui, a dit que la politique, eh bien c'était toi, Thomas, c'était nous tous, c'était les citoyens qui avaient avant tout la parole face au cynisme et à l'impuissance que les principaux candidats, et que François Hollande notamment, ont prôné. À l'heure de Twitter, à l'heure de cette vague communication, il a pu incarner une figure de tribun, portant une parole forte, puissante, écrite, travaillée, qui manquait au discours politique. Il s'est d'ailleurs adressé à ceux qui sont principalement, à ceux qui ont besoin de politique, c'est-à-dire ces hommes, ces femmes qui souffrent, qui sont les principalement touchés par la crise, mais non pas pour leur proposer un discours de rejet, de haine, de crainte et de peur, non pas pour instrumentaliser la situation pour mieux taper sur une population particulière, non ? C'était un vrai discours de paix, de vie, lorsqu'il disait « Nous ne sommes qu'une humanité sur la plage du Prado à Marseille », en appelant à une Méditerranée à construire, eh bien on pouvait y croire. Jean-Luc Mélenchon a incarné cet homme politique humaniste qui mettait l'homme avant tout dans une époque qui tend malheureusement à oublier les hommes.
Alors, blanc-seing total à Jean-Luc Mélenchon, Amos, humaniste, romantique, le changement c'est maintenant, ça c'est plutôt Hollande, Mélenchon à t'entendre, c'est le changement c'est possible ?
Le changement c'est possible et malheureusement ce n'est que possible, car Jean-Luc Mélenchon, une fin d'après-midi, place de la Bastille, évoquant les grandes heures de l'histoire de France, 1789, 1848, la Commune, la Libération, mai 68, soudain, il sembla pris au piège de lui-même. Il avait réuni une foule extraordinaire, des centaines de milliers de personnes étaient là. Et Jean-Luc Mélenchon a semblé comprendre qu'il n'avait pas les épaules, qu'il était incapable d'incarner ce changement, qu'il n'était qu'une parole qui pouvait susciter de l'espoir, mais que lui, Jean-Luc Mélenchon, ne pouvait être le grand homme, ne pouvait être plus que la voix d'une campagne. Non, Jean-Luc Mélenchon ne sera pas l'homme politique de la décennie, ne sera pas un nouveau Robespierre, ne sera pas un grand homme politique apte à changer profondément les choses. Il n'est que le héros au sens de rapporteur de nouvelles, au sens d'homme qui parle, mais il n'est pas l'homme qui fait. Ainsi, en ce soir, place de la Bastille, il n'a pas été capable de dépasser ce qu'il incarnait, de transformer en actes ces mots qu'il portait pourtant si bien. C'est bien l'homme de l'année politique 2012, car à l'image de cette année, il n'a pas fait grand-chose.
Pas l'homme politique de la décennie, mais l'homme politique 2012, c'est déjà bien.
Alors à côté d'Amos, dans ce tour de table, Thibaut, que j'ai pas encore eu l'occasion de saluer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Thomas. Bon alors, de mon côté, j'ai pas réussi à trancher, et je voudrais faire une double réponse. Une réponse en pique d'une part, et puis un peu plus sérieuse après. Donc pour la pique, je dirais que la personnalité politique qui s'en sort le mieux cette année, parce qu'elle a enfin trouvé sa vraie place, eh bien c'est, roulement de tambour, Nadine Morano. Parce que c'est elle qui, en perdant toutes ses charges officielles et en devenant militante UMP, revenons à des choses simples, eh bien, a trouvé un petit peu ce qui lui correspondait le mieux dans le paysage politique français. Et puis, comme ça à chaud, je dirais que la vraie personnalité politique de l'année, c'est notre ministre de l'Intérieur, Manuel Valls. Parce que, à mon avis, il se positionne assez bien. Et je dirais comme ça qu'on va entendre parler de lui dans quelques temps pour des postes encore plus importants. Voilà, petite analyse sans prétention, mais voilà qui j'élis pour la personnalité politique de l'année.
Alors je te pose la même question qu'à Amos et Thibault. Tatiana, bonjour d'ailleurs, je ne t'ai pas salué non plus. Quel est pour toi l'homme politique de l'année, Tatiana?
Oui, alors moi j'ai nommé pour 2012 Arnaud Montebourg, le ministre du redressement productif. Alors pourquoi? On l'a découvert finalement fin 2011 aux primaires socialistes. Une belle révélation, oui, un certain charme, certainement, hein, politique. C'est un homme qui sait parler, c'est aussi un homme qui sait se montrer. On l'a vu, le petit coup de la marinière au Parisien Magazine. Et d'ailleurs, Roselyne Bachelot l'a souligné, il était craquantissime. Alors voilà, je pense que vraiment, c'est l'homme de l'année.
En fait, complètement sous le charme d'Arnaud Montebourg, hein.
Alors peut-être, oui.
Encore plus maintenant qu'il a quitté Audrey Pulvar ou c'est l'effet? Je veux tout savoir.
Écoute Thomas, on verra bien, et pour moi, c'est l'homme de l'année, Arnaud Montebourg.
Marie-Ève, alors je ne sais pas s'il faut vraiment que je te donne la parole dans ce contexte, dans cette émission, parce que la semaine dernière, pour nos auditeurs fidèles, tu nous as fait un portrait d'une femme politique anguille.
Le coup de l'anguille.
Le coup de l'anguille va-t-il être réitéré, Marie-Ève?
Alors Thomas, je te rassure, en ces temps de crise, j'ai choisi une valeur sûre pour l'homme politique de l'année 2012. Ma figure fétiche depuis quelques années. Donc après les femmes anguilles, on aura les totems fétiches. Une figure donc insupportable, exaspérante et donc détestée pour certains, tandis qu'elle représente une sorte de figure tutélaire, un héros contestataire et ardent révolutionnaire pour les autres. Tu l'auras sûrement reconnu, et Tatiana aussi, et vous aussi, Thibaut et Amos, il s'agit de DCB.
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 Bah oui, ça marche moins bien que DSK malheureusement. Et oui, c'est Daniel Cohn-Bendit, on l'a donc mentionné la semaine dernière.
Ah
bah voilà. D'abord, il est vrai, Dany n'a pas fait beaucoup parler de lui en début d'année. Il est cependant important de noter qu'il est devenu, en avril dernier, membre du conseil d'administration de l'université Paris 10.
Ah oui.
Un pied de nez de l'histoire, oserais-je dire, sous le regard bienveillant des historiens présents autour de cette table.
Nanterre.
Car siéger au conseil d'administration d'une université pour quelqu'un qui a fait le siège de la Sorbonne, c'est tout de même assez notable.
Ah, ou et puis peut-être, le mouvement de Nanterre, il l'a lancé depuis cette fac.
Quand
quoi.
Même, oui, en plus. Ou Mais peut-être est-ce un moyen de mieux infiltrer le système pour encore mieux le subvertir? Car je suis sûre que Dany a quelques idées derrière la tête et aussi
ouais,
plus d'un tour
vieillit,
dans son
tout,
sac.
Hein.
Oh non, on verra qu'il ne vieillit pas tant que ça. La preuve, en septembre, Dany se réveille. Le 23 septembre dernier, il déclare donc, après le nom d'Europe Écologie Les Verts au traité européen, qu'il suspend son adhésion au parti écolo, je cite. Et donc, le parti écolo qui était pourtant un rassemblement dont il a favorisé la création en 2008. Le Schtroumpf grognon, comme on le surnomme, aurait-il alors définitivement claqué la porte des Verts, faisant passer ses convictions avant tout le reste et refusant tout compromis et tout affadissement de ses positions? Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Parce que 3 jours plus tard, il annonce la création d'un think tank Europe et écologie.
Oh yeah, Marie-Hare.
Un think tank écologique.
Ecology power.
Non mais là, c'est vous qui ruinez. Vous avez fini de me casser à chaque fois. Pour promouvoir donc une approche pragmatique mais ambitieuse de l'Europe. Et comme dans tout bon couple, il faut bien un gros clash avant de pouvoir de nouveau discuter. C'est pour ça que je l'aime aussi, Dany. En tant que peut-être aussi que futur prof et surtout européaniste convaincu, je ne peux donc qu'approuver cette tentative de réconciliation et cette prise de conscience de, je cite à nouveau, la responsabilité de rendre notre vision de l'Europe plus pédagogique. Et c'est justement ce qu'il a fait également dans la même période, en octobre, en publiant avec Guy Verhofstadt un manifeste pour une Europe fédérale intitulé « Debout l'Europe », sous-titré « Manifeste pour une révolution post-nationale en Europe ». Mais je n'en dis pas plus sur le sujet, je vous invite simplement à réécouter la très bonne chronique de Jérôme sur « Dans le vu d'Europe » du magazine politique de Sans langue de bois numéro 6 sur le sujet. Et last but not least, pour continuer dans les anglicismes,
complètement bilingue,
je terminerai par un dernier fait marquant de DCB cette année. Toujours en septembre, décidément il était très actif à ce moment-là, il a en effet accepté de devenir le président d'un club de foot. Le saviez-vous ?
Non, pas du tout.
Et pas n'importe lequel, le club de foot de son fils, le club de foot autogéré de Francfort, le FC Gutesding, c'est-à-dire...
Gutesding
bien... Après l'anglais et l'allemand.
La bonne chose,
c'est-à-dire c'est exactement, ou bien joué.
Ich spreche auf Deutsch, ich mag Daniel Cohn-Bendit.
Magnifique, on s'internationalise, merde.
Bref, vous l'aurez compris, je suis supporter de Dany sous toutes ses couleurs. Oh. Que ce soit Dany le rouge, Dany le vert ou Dany vert très pâle, comme en ce moment.
Et surtout de la Gooding.
Mais en espérant toutefois que notre cher Dany ne soit pas en train de tomber malade.
Arzo.
Reviens-nous vite.
Ben, merci Marie-Ève pour ce choix. Moi, le mien, je vous le donne maintenant parce qu'on a fini ce tour de table, c'est Nicolas Sarkozy. Oui, vous avez bien entendu, Nicolas Sarkozy, pour moi, c'est l'homme politique de l'année. L'homme qui a perdu, avec 48,36% des suffrages exprimés le 6 mai 2012 face à François Hollande. Oui, le premier président depuis 30 ans à briguer un second mandat et à être battu. Comparable en cela à Valéry Giscard d'Estaing, le coup de pouce de l'époque du RPR à Mitterrand, remplacé seulement par une coalition politique nationale contre le soldat Nicolas, qui transforma le second tour de l'élection présidentielle en étrange plébiscite. D'ailleurs, au soir du 6 mai, dans la foule, en délire de Solferino, sur les chemins de la Bastille, ce qui me choqua alors, ce ne fut pas ces drapeaux étrangers, peut-être plus visibles que les drapeaux tricolores, mais les Sarkozy c'est fini et autres Sarko ont paniqué, plus au nord, de loin, que les Vive Hollande ou les Merci François. Finalement, le seul état de grâce de l'actuel président, ce fut quand il monta sur scène, enfin, après son Tulle Paris Express, et que la foule, pour lui seul, exulta. Mais le lendemain, déjà, tout était fini. La grâce retombait comme on rate un soufflet.
Sniff.
C'est qu'en politique, les victoires par réaction sont des défaites en anticipation. Le 6 mai, ce n'est pas François Hollande qui a gagné, c'est Nicolas Sarkozy qui a perdu. Et tant pis pour tous ceux qui y croyaient, qui espéraient un renouveau de 81. À gauche, les François se suivent et ne se ressemblent guère. Mitterrand avait rassemblé la gauche, les gauches. Si bien qu'il avait fini par rassembler la France autour de la gauche, sa gauche. Hollande n'a pas rassemblé la gauche. Il a tout de même réuni la France, mais pas autour de son projet, pas autour de ses 60 propositions, autour de son slogan « Le changement c'est maintenant » et de son comportement normal. Victoire de la forme sur le fond, en somme. François Hollande ou l'anti-Sarko, celui qui s'arrête au feu rouge, qui prend le train, qui se déplace sur les plateaux de télévision pour se faire interviewer. Et vous trouvez ça moins gadget qu'une Ray-Ban et une Rolex ? Le 6 mai, François Hollande a peut-être gagné. Pourtant, son discours et celui de son gouvernement restent un discours de campagne, fustigeant toujours le président sortant, le gouvernement précédent, sur l'air maternel du « c'est pas moi maîtresse, c'est lui ». Nicolas Sarkozy est parti, rien n'a changé. On parle toujours autant de lui. Même, certains finissent par le regretter. Un comble. En politique, les absents ont, chacun le sait, toujours raison. La cote de popularité du plus jeune retraité de France n'a en effet jamais été aussi haute. Et en septembre dernier, des sondages rapportaient que, pour les Français, le président sortant aurait été plus efficace pour résoudre les problèmes du pays que l'actuel président. Au plus bas quant à lui, dans les enquêtes d'opinion, lui le socialiste obligé de se livrer à des coupes claires dans le budget et à augmenter prélèvements et taxes. Situation qui en rappelle étrangement d'autres au sud de l'Europe, mais surtout non, ne prononçait pas le mot d'austérité. Loin de tout cela, arborant, selon Roselyne Bachelot, un style « bad boy » au mot revisité, « sick », Nicolas Sarkozy prend à l'ombre la lumière, enchaînant les conférences bien payées à l'étranger, siégeant en sage, et apprenant que le silence est d'or. Pour Nicolas Sarkozy, les sondages se suivent et se ressemblent. En septembre, une autre enquête d'opinion place l'ancien président en tête auprès des sympathisants de droite pour l'emporter en 2017 devant François Fillon et Jean-François Copé. Vous savez, ceux qui ont tous les deux remporté les élections à la présidence de l'UMP. Là encore, Nicolas Sarkozy jubile, récitant en boucle dans son salon près de Carla « Un seul être vous manque et tout est dépeuplé ». Il n'est plus à la tête de l'UMP, l'UMP perd la tête. C'est qu'on avait fini par oublier la prouesse de l'ancien maire de Neuilly. Avoir réussi, pendant près de 10 ans, à unifier ce monstre qu'est l'UMP, composé de gaullistes, humanistes, démocrates, libéraux, n'en jetez plus, et destiné à braconner en terre extrême. Parti, son fauteuil paraît bien trop grand pour quiconque à l'UMP, un comble pour celui dont on s'est tant moqué de la taille. Fillon et Copé s'entretuent, Sarkozy ressuscite. Cette lutte fratricide, il en a rêvé. Il a même dû fabriquer quelques petites poupées vaudou et exécuter des danses chamanes autour. Mais cela a dépassé ses espérances les plus folles. Il voulait que le roquet de Meaux et le gros pâteau de Saint-Bernard s'étripent pour revenir à point nommé, son parti redressé. Mais pour cela, Nicolas, il faudrait justement qu'il reste un parti à sauver. Or, il y a le feu à la maison UMP. Le parti est divisé, pris en otage par un terroriste briard, les pires, et à l'Assemblée, la rupture est consommée. Les sacs Nicolas revient, confectionnés par la femme de Luc Ferry, ne peuvent décidément pas masquer les désagréables sensations de déjà-vu, comme un retour en arrière, Copé en Chirac, Fillon en Balladur. Devant le péril, Nicolas Sarkozy est d'ailleurs, ça ne trompe pas, sorti de sa réserve, proposant un référendum avorté sur l'air de « Putain, ces deux cons vont tout faire foirer !» Oui, on n'a jamais autant parlé de Nicolas Sarkozy qu'en 2012, tantôt en homme à abattre, tantôt en sauveur désigné. Et pour toutes ces raisons, il mérite bien, selon moi, le titre d'homme politique de l'année. Néanmoins, pas sûr qu'il soit celui de 2013, et encore moins de 2017, désolé. Il aurait pu être le sauveur de l'UMP qu'il a quitté. Mais en 6 mois, l'UMP a changé, les clivages se sont exacerbés et Nicolas Sarkozy apparaît plus comme une référence à convoquer qu'un homme providentiel à rappeler. Finalement, la seule chose qui pourrait unir Copé et Fillon, ce serait d'empêcher le retour de Sarkozy, l'homme politique de l'année.
Yeah, on s'applaudit en régie.
Voilà, on finit donc ce tour de table avec mon choix, Nicolas Sarkozy. Vous avez donc écouté tous ceux qui ont marqué, selon nous, la politique en 2012. N'hésitez pas, chers auditeurs, à donner votre avis sur la page de l'émission et répondez-vous aussi à cette question : qui, selon vous, est l'homme politique de l'année ?